Du rap, du rock, du rétro, de l'électro. Variété musicale, c'est sur D4B.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Lire entre les lignes, sauter des pages, souligner scrupuleusement certains passages, prendre des notes dans la marge, lire uniquement des romans de chevalerie, il existe bien des manières de ne pas être un lecteur idéal. Peut-être même que toutes ces manières de se faire mauvais lecteur devraient compter aussi les façons très studieuses, apparemment modèles, de lire. C'est une des idées de l'essayiste Maxime Decoux qui a signé un éloge du mauvais lecteur aux éditions de Minuit, et qui nous a donné envie de suivre sa voie pour mettre au clair ce que serait un mauvais auditeurs, puisqu'il existe tellement de manières de mal lire les livres, il doit bien exister au moins autant de manières de mésécouter la musique. Dans ce métaclassique mésécouter, nous avons organisé une séance de mauvaise écoute au bureau d'études utopiques La Clairière, en compagnie de l'artiste Natalia Rémé-Cortès et de la compositrice et joueuse de canoun Christine Zayed. Nous avons aussi interrogé Antonin Triwang, qui s'est prêté à quelques sessions de mentalisme musical, tout en invitant Maxime Decoux à commenter ses expériences de mes écoutes après avoir cherché quelques analogies entre son livre et ce qui pourrait donc être un éloge du mauvais auditeur. Maxime Decoux, bonjour.
Bonjour.
Si vous ne parlez pas de musique et de mauvais auditeurs en parlant du mauvais lecteur, il y a quand même une fameuse auditrice qui apparaît, qui s'appelle Madame Bovary, que vous prenez en exemple comme une mauvaise lectrice, qui est aussi une auditrice de musique. Et peut-être qu'elle est mauvaise auditrice pour les mêmes raisons qu'elle serait mauvaise lectrice.
Alors, la question de son rapport à la musique me semble beaucoup moins centrale dans le roman de Flaubert, mais vous avez très certainement raison, il y a une forme de laisser-aller liée à la question de l'émotion et de la submersion par ses émotions chez Emma Bovary, qui va dans le même sens, effectivement, du côté de la musique et du côté de la lecture, d'autant plus que Flaubert, ici, dresse une critique de l'attitude romantique et de l'emprise du romantisme, alors romantisme littéraire, sur ses lecteurs et lectrices. Et du côté de la musique, ça fonctionne certainement de la même manière, ou d'une manière en tout cas partiellement analogue, puisque ce que cherche Madame Bovary dans ses lectures, c'est avant tout des émotions fortes. Et on sait que la musique romantique est aussi caractérisée par un certain excès qu'on ne retrouverait pas ailleurs.
Donc ça pourrait être l'analogie entre mauvaise lecture et mauvaise écoute, qui serait une volonté d'affectation, d'auto-affectation, et pour ça donc d'immersion.
Tout à fait. Alors la lecture et l'audition d'un morceau peuvent de toute façon être difficilement comparé à cause de la question de l'interprétation et du médium et de la signification. La construction d'un sens à l'intérieur d'un texte littéraire ne relève pas des mêmes mécanismes que l'écoute d'une musique, si bien que le point de contact se fait certainement davantage autour de la question de l'émotion qu'autour du reste.
Mmh. On va avoir une petite heure pour en débattre et rentrer dedans. Vous repérez des similitudes étonnantes entre les causes et les effets de la masturbation et de la lecture. Ça vous vient de la lecture de Samuel Auguste Tissot, qui en 1760 fait un traité qui s'intitule L'onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation, où il est question de lecture.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un discours qui se développe au XVIIIe siècle, discours médical, qui considère que la lecture est effectivement quelque chose de dangereux, parce qu'au XVIIIe siècle se développe le roman, et avec lui, la lecture par identification et empathie vis-à-vis des personnages. Il y a un succès incroyable du roman, les gens se mettent à lire énormément, et ça inquiète aussi bien l'Église qu'un certain nombre d'intellectuels qui vont approcher ce phénomène à l'aide d'un discours médical. Et l'analogie est faite notamment avec la masturbation, parce qu'il y a l'idée de se donner à soi-même du plaisir en se coupant des autres. À la différence d'une relation sexuelle qui se ferait avec un partenaire.
À deux ou plus, oui.
Voilà, on serait dans quelque chose qui serait donc aussi d'antisocial, qui se replierait par rapport à l'autre. Il y a un traité aussi de Tissot sur les maladies des gens de lettres, à force de rester assis, de lire. Donc on envisage, alors c'est de la pseudo-science, mais c'est abordé de manière considéré de manière très sérieuse, oui. Comme une véritable maladie.
Oui, c'est 8 ans plus tard, de la santé des gens de lettres en 1768.
Tout à fait.
Il reste qu'il faut donc ensuite arriver à connecter quelle est la liaison entre le mauvais lecteur et le mauvais livre, puisque la peur de l'un peut-être génère la peur de l'autre. Sauf que le XVIIe siècle et puis les Lumières, vous dites, vont te mettre dans la tête de tous que le bon livre peut former le mauvais lecteur et que le bon lecteur est aussi un effet du bon livre.
Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, on réfléchit à l'influence de la littérature et des livres en général sur les lecteurs et les lectrices. En se demandant, parce qu'on identifie un certain nombre de risques de la lecture, notamment tout ce qui est lié à l'identification, parce que c'est l'époque, je vous le disais, où le roman prend son essor. Et donc on se dit que malgré tout, en écrivant les bons livres, on peut engendrer des effets sociaux plus forts, plus généraux sur les lecteurs et les lectrices, et donc pour ce qui irait dans l'optique de cet idéal de la société des Lumières, où la culture, la littérature pourrait permettre d'éduquer les gens et de les amener vers une société plus égalitaire, plus démocratique, avec plus de liberté. Et ça, c'est notamment, Rousseau notamment y réfléchit beaucoup, parce que Rousseau condamne énormément la littérature, notamment dans l'éducation des jeunes enfants. Il envisage dans l'Émile que la lecture, par exemple, des fables de La Fontaine est extrêmement dangereuse pour les enfants parce que ça leur apprend à mentir. Alors évidemment, on peut discuter, est-ce qu'une fable de La Fontaine a jamais appris un enfant à mentir ? Ça, c'est une autre question. En tout cas, c'est le point de vue de Rousseau. Et Rousseau, malgré ses critiques qui sont très nombreuses contre la littérature, écrit lui-même de la littérature. Mais c'est qu'il y a en creux l'idée qu'il y a une certaine manière d'écrire de la littérature qui peut permettre de bonifier ses lecteurs et ses lectrices. Et une certaine manière de lire, donc aussi.
Bonifier, on pourrait aussi dire normaliser.
Oui, très certainement. Je pense qu'à l'époque, on ne distingue pas vraiment les deux. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire améliorer ses lecteurs et ses lectrices ? Ça, c'est une véritable question qui n'est pas véritablement posé, parce qu'on a un objectif qui est fixé par les Lumières, qui est cet objectif d'émancipation, d'égalité, qui prédomine et qui en soi n'est pas vraiment questionné.
Mais c'est une question que vous vous posez en prenant le mauvais lecteur pour en faire l'éloge.
Tout à fait.
Ce qui nous met dans des postures paradoxales, mais ce qui vous permet aussi des rapprochements, puisqu'on a évoqué Madame Bovary comme figure de l'immersion, de l'auto-affectation, mais aussi à l'instant les gens de lettres qui parfois à surinvestir un texte sont aussi de mauvais lecteurs. Et ce que vous faites, c'est de penser le pont entre ces deux manières de mal lire.
Oui, tout à fait. Alors, ce que j'essaye de faire globalement, c'est de définir ce que j'appelle la mauvaise lecture comme une lecture qui ne répond pas à un certain nombre de normes ou d'attentes suscitées par le texte lui-même, donc qui ne va pas se plier à la manière attendue de lire le texte, soit contrainte par les normes sociales, soit contrainte par le texte lui-même, puisque on le sait, un texte façonne ses lecteurs, il nous fournit, pour le lire, un certain nombre d'instructions de lecture que nous sommes invités à appliquer, à prendre en considération. Et ce qui m'a intéressé, moi, c'est justement ces moments où lecteurs et lectrices refusent de coopérer avec le texte et donc d'en être ce que Umberto Eco appelait le lecteur modèle. Mmh. Et pour mesurer ce phénomène, j'envisage deux formes extrêmes de dissidence par rapport à ce modèle de la lecture, la manière de lire qui est programmée par le texte. Deux formes de dissidence extrême. D'un côté, la lecture émotionnelle par identification, par immersion à l'intérieur du texte, donc plutôt le pôle Emma Bovary dont on parlait tout à l'heure. Et puis de l'autre, une lecture hyper intellectualisée, au contraire, détachée des émotions qui va interpréter et parfois sombrer dans la surinterprétation. Donc la lecture effectivement plutôt des gens de lettres ou des intellectuels dont on a de très nombreux exemples dans les textes littéraires aussi.
Ou alors le Sherlock Holmes des textes, vous le citez comme le cas de celui qui contourne les guet-apens du livre et qui n'est pas le bienvenu parce qu'il ruine les effets de l'œuvre alors qu'ils sont essentiels à son fonctionnement.
Tout à fait. Alors ça c'est très net par exemple dans le roman policier. Le roman policier qui façonne un lecteur qui doit tomber dans ses pièges. Pour pouvoir produire son effet, le lecteur de romans policiers ne doit pas découvrir le poteau rose avant le détective, même si c'est le rêve secret de tout lecteur de romans policiers, c'est de trouver, de découvrir en tout cas le coupable avant le détective. Mais le texte, lui, s'efforce de vous piéger. Et donc son lecteur modèle, le lecteur modèle qu'il appelle, c'est un lecteur qui va sombrer dans ses pièges et à ce titre-là, le mauvais lecteur, celui qui refusera de se laisser piéger, donc de lire comme le texte le voudrait, devient au contraire une sorte de Sherlock Holmes des textes puisque c'est celui qui va pouvoir mettre la main sur le coupable avant le détective. Mais bien sûr, c'est toujours un peu décevant lorsqu'on a terminé un roman policier et qu'on a déjà trouvé la solution.
Pour revenir à Emma Bovary, est-ce qu'on peut dire qu'elle n'est pas tant que ça lectrice modèle des romans sentimentaux qui probablement assume de créer cette charge d'auto-affectation chez lecteurs et lectrices?
Alors c'est une question très très juste. Je pense qu'il mais qui est difficile. Je pense qu'il est difficile d'y répondre pour la simple et bonne raison que Flaubert ne nomme pas souvent les textes que lit Emma Bovary et donc on ne peut pas mesurer exactement. Alors il parle
À quel point elle est raccord ou pas.
Il parle de lecture pour jeunes filles, donc on sait que c'est des romans à l'eau de rose mais on ne sait pas exactement ce que c'est et nous n'avons pas les textes, donc il est finalement évaluer la manière dont elle lit, on est obligé de se fier à ce que nous en dit Flaubert, mais on ne peut pas le rapporter au texte véritablement qu'elle lit. Et c'est souvent le cas, en fait, dans les romans qui se penchent sur la mauvaise lecture ou la lecture en général. On a le personnage de lecteur et de lectrice est très fréquent dans les romans parce que c'est un moyen pour la littérature d'auto-interroger sa propre réception et ses effets sur son public. Mais très fréquemment, les textes lus ne sont pas mis à la disposition du lecteur réel que nous sommes.
La distinction entre le lecteur modèle et le mauvais lecteur, vous dites qu'il faut aussi la relativiser, précisément parce que les deux côtés sont émaillés d'ambiguïté et que la pathologie et l'identification peuvent tout à fait s'assembler.
Tout à fait. Et puis, comme je le disais, c'est aussi parfois ce que construit le texte, ce que cherche à produire le texte. Donc c'est véritablement, parce que je prends l'adjectif bon et mauvais comme des modélisations idéales, sachant qu'il y a entre toute une série de nuances et sachant que je déleste l'adjectif mauvais de connotation péjorative. Il ne s'agit pas de condamner ce type de lecture, mais de les situer en fait sur un ensemble de pratiques. L'idée étant de s'interroger sur les manières dont nous lisons, non pas pour mesurer concrètement comment lisent les lecteurs réels, parce que là il s'agirait de mener vraiment une enquête sociologique. Donc, il aurait fallu que j'aille interroger des gens. Comment est-ce que vous lisez, stylo en main? Est-ce que vous sautez des pages? Combien? Etc., etc. Ça, ça relève plutôt de l'enquête de sociologique. L'enquête que je mène, elle est d'ordre littéraire. C'est-à-dire que je m'interroge sur la manière dont la littérature elle-même conçoit ce phénomène et les pratiques de lecture, et donc comment elle les interroge en les questionnant à l'intérieur de textes.
Alors si on essaye des analogies musicales, est-ce que être bon au blind test, c'est être bon ou mauvais auditeur ?
Je ne pense pas, parce que là le
donc ça se raccroche à l'érudition. Donc
oui, voilà, là il s'agit érudition et la question, il y a une question aussi de rapidité et ouais. de savoir reconnaître un fragment pris à l'intérieur d'un morceau.
Ouais.
Je pense que là, ça mobilise peut-être des compétences différentes, qui sont effectivement des compétences de culture, mais aussi d'oreille et de mémoire.
Parce que quand vous dites que Flaubert reprend à son compte la veine parodique de la dénonciation de la pseudo-érudition, quand vous dites aussi que l'identification est interdite, oubliée, considérée comme nulle et non avenue, ça pourrait induire, si on essaye de faire l'analogie avec la musique, que vouloir être un bon auditeur serait presque un frein à bien écouter.
Alors là, les phrases que vous citez portent sur Bouvard et Pécuchet,
oui.
Il me semble. Donc c'est un autre cas de figure chez Flaubert, autre type de mauvais lecteurs qui font pendant à Madame Bovary, mais qui interviennent plus tard dans l'œuvre de Flaubert, avec deux personnages qui ont décidé en fait d'accumuler tous les savoirs produits par les gens de leur époque,
oui.
En lisant, en devenant des spécialistes de différentes disciplines grâce à la lecture, donc spécialistes de géographie, d'agronomie, de pédagogie. Alors c'est catastrophique à chaque fois. Et donc là, on a au contraire des lecteurs qui se prennent pour des savants, donc qui sombrent dans l'autre attitude que je mentionnais tout à l'heure sur une sorte d'échelle de la mauvaise lecture, c'est-à-dire qu'on passe du pôle entièrement affectif et non interprétatif qu'on aurait chez Emma Bovary, au pôle hyper intellectualisé que seraient Bouvard et Pécuchet, donc, puisqu'il s'agit du tout dernier roman de Flaubert, qu'il a laissé inachevé. Et là, il me semble, pour revenir à ce qu'on disait juste avant sur la question de donc du blind test et de l'identification, là encore, je dirais que ce n'est pas tout à fait la même chose, dans le sens où, chez Bouvard et Pécuchet, il s'agit de former un savoir en tant que tel. Et je dirais que le blind test, c'est le degré zéro du savoir, c'est-à-dire c'est l'identification, la reconnaissance. Donc c'est plus qu'un savoir proprement dit, c'est des connaissances.
À l'état trivial poursuite ou question pour un champion.
Exactement, ouais. C'est des connaissances à l'état brut, donc des faits. Encore qu'il y a quand même un biais, puisque le blind test suppose que c'est pas des faits à l'état pur, c'est pas quelle est la date de la naissance de Marie-Antoinette ou la date de composition de Don Juan. Il y a le filtre de la reconnaissance de la succession des notes qui intervient, donc il y a quand même une compétence.
Oui, mais c'est une compétence musicale très réduite.
Très réduite, ouais. Tout à fait.
Très spécialisée,
donc
en tout cas.
On est sur un degré peut-être zéro de cette... Après, ce qui n'empêche pas que le jeu est sympathique.
Pas pour tout le monde. Je vais vous faire entendre le cas de Natalia Remer-Cortez, qui est une artiste qui n'aime pas tant que ça jouer au blind test, que j'ai pu rencontrer à La Clairière, le bureau d'études utopiques créé par Colin Roche et Blandine Brière à Luné. Et puis après, le public de La Clairière a pu se prêter à quelques jeux d'écoute qui essayent de se saisir comme mauvais auditeur. Natalia Remer-Cortez, est-ce que vous avez déjà participé à un blind test ?
Non.
Et vous avez l'air heureuse de ne pas avoir participé
oui,
à un blind test.
J'aime pas jouer.
Vous aimez pas jouer ?
Non.
Le blind test, précisément, laisse penser que ceux qui réussissent
ouais.
sont de bons auditeurs.
Je sais pas. Pas a priori, oui.
Ouais, mais pourquoi ? Ça voudrait dire que de reconnaître ce qu'on entend, c'est avoir bien écouté ?
Non, pas forcément. Mais ça veut dire bah oui. qu'on reconnaît, ça veut dire qu'on sait... Oui, bah qu'on a suffisamment entendu, écouté de choses, au moins un peu, pour les reconnaître dans ce genre d'exercice, un peu rapide.
Donc si on creuse cette idée-là, ça veut ouais. dire qu'une musique que vous auriez vraiment bien entendue
ouais.
n'est pas forcément une musique que vous aurez reconnue.
Oui, peut-être.
Ouais. Mais vous c'est... considérez plutôt bonne ou mauvaise auditrice ?
Ah, très mauvaise.
Ah oui. Mmh. Et pourquoi ?
Bah, parce que j'ai une concentration un peu flottante et que, par exemple, je pense que j'ai très rarement fait l'expérience d'écouter, de m'asseoir, si c'est pas un concert, chez moi et d'écouter un disque. C'est quelque chose que je fais pas.
D'accord. Donc là, vous êtes en train de nous dire que d'être une bonne auditrice, ce serait d'arrêter tout et de se mettre devant la musique.
Non, mais comme...
Et de l'écouter très attentivement.
Peut-être, ouais. Être une bonne auditrice, ce serait quelque chose de, je sais pas, qui est discipliné, qui a un début, une fin, qui... Oui, une concentration constante, je sais pas. C'est ce que j'imagine être dans le sous-titre de bonne auditrice, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui fait bien les choses.
Donc ça veut dire que vous préférez être une mauvaise auditrice, que quelque part vous préférez ne pas faire ce travail de concentration ou...
Je ne sais pas si je préfère, mais en tout cas, c'est ce que je fais. En tout cas, j'ai jamais fait. Ça me demande un effort de faire autrement, donc je le fais pas.
Ah oui.
Je sais pas.
Alors oui, Maxime Decoux, il parle d'un cas, un certain Louis Lambert, qui est un héros de Balzac,
ouais.
qui précisément s'immerge tellement dans la lecture qu'il s'isole complètement du monde et qui donc il devient un mauvais lecteur. Parce que peut-être que le bon lecteur serait celui qui a encore un peu de disponibilité. Pour pas forcément être très disponible, quoi. Enfin, alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui écoutent d'une oreille et d'autres qui écoutent de deux oreilles ?
Je suis content de découvrir que c'est mieux d'écouter que d'une oreille. Enfin, parce que je suis pas capable de faire mieux, mais j'en avais un complexe. Enfin, j'ai une souffrance. Je me force à me concentrer sur l'écoute. Et cependant, j'y arrive pas.
Donc, ça veut dire qu'il y a...
tout le temps. J'écroche régulièrement.
Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vous ont fait penser que les bons auditeurs étaient ceux qui écoutaient de deux oreilles
ah non,
et
c'est,
qui vous ont empêché de penser que c'était mieux d'écouter d'une seule hein, pendant un moment, avant que...
Non, je découvre ça grâce à vous, là.
Ah oui.
Ce phénomène.
Ah, c'est chouette.
Sinon, je fais ce que je peux, oui. Je fais comme Natalia, je fais ce que je peux. J'essaie de me concentrer, mais je m'évade tout le temps.
Ah d'accord. Peut-être qu'on va faire l'expérience d'écouter une musique d'une seule oreille. Donc on s'autorise à avoir l'autre oreille ailleurs. Et puis on va essayer d'en éprouver les bénéfices. Il n'y a que les bons auditeurs qui écoutent tout, donc on peut s'arrêter là. Qui a le sentiment d'avoir mieux écouté que les autres ? Non, qui a eu le sentiment de ne pas avoir pu bien écouter ? Enfin, oui, alors pourquoi ?
Moi déjà, je pense qu'il y a une notion philosophique entre bon et mauvais. Déjà, moi, pour moi, ça peut être bon de pas écouter concentré, ce qui m'arrive régulièrement, puisque en fait, même en écoutant là, je regardais là-haut et je pensais à d'autres choses. Donc, je pense que déjà la notion de bon et mauvais, faudrait déjà la placer correctement. Et enfin, correctement, il n'y a pas d'attaque, mais c'est très philosophique comme position. Le bon et le mauvais, comme le mal et
oui,
le bien.
Oui, mais là, précisément.
Là, dans ce moment-là, moi, j'ai exprès mal écouté parce que j'aime bien mal écouter. Parce que mal écouter, ça me permet de faire deux, trois choses en même temps. Et je trouve que c'est bien. Donc, on revient, on mélange le bien et le mal. Voilà.
Non, c'est ça, vous préférez être une mauvaise auditrice.
Je préfère, si vous placez mauvais et auditrice, dans le sens philosophique, que c'est pas bien.
Bah en fait, moi, je suis vraiment à creuser la position de Maxime Decoux, c'est-à-dire comment faire l'éloge des mauvais auditeurs.
C'est-à-dire alors, à ce moment-là, je serais une mauvaise auditrice dont on pourrait faire l'éloge.
C'est ça.
Puisque je fais deux, trois choses en même temps en écoutant la musique. Mais il m'arrive d'écouter vraiment de la musique concentrée avec un casque.
Ah oui.
Là, je me rapproche de ce que disait Natalia, c'est-à-dire que la concentration est quelque chose qui permet de faire une seule chose en même temps. Est-ce que c'est bon ou mauvais ? Après, c'est un débat.
Et alors, il y a un autre débat, c'est est-ce qu'il y a des musiques qui sont plus adaptées à l'écoute concentrée que c'est la musique qu'on vient d'écouter, qui d'ailleurs n'est pas écrite pour qu'on l'écoute de façon concentrée, puisque c'est une musique du salon du 19e siècle qui est faite pour accompagner les mondanités.
Oui, en effet, il y a des musiques qui peuvent agresser et il y a des musiques qui nous laissent plus facilement nous échapper. Et les musiques qui nous agressent d'une certaine façon, quelles qu'elles soient, en fait, nous rappellent à l'ordre de l'écoute. Mais ça peut être aussi une musique par exemple classique qui est censée être plus douce, mais qui peut par certains passages musicaux peut-être nous rappeler à l'ordre, comme il y a eu là à un moment donné, il y a une reprise musicale qui pour ma part m'a rappelé à l'ordre et m'a fait de nouveau revenir dans une concentration qui s'est immédiatement échappée vers autre chose.
Donc ça veut dire qu'une musique que vous dites agressive, c'est justement une musique qui vous demande d'être meilleure auditrice que vous n'avez envie d'être.
Oui, c'est meilleur de dire ça.
Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la norme d'écoute qui est dans la musique, quoi.
Non, je pense pas.
Bah si, dans la mesure où elle vous demande d'être meilleure auditrice que vous ne voulez être.
Oui, alors on en revient. Oui, alors on. D'accord. Bah oui. Ça redevient une notion assez subjective, disons.
Ah oui, bah ça, bien sûr. Oui, oui. Vouloir savoir ce qu'a voulu exprimer le compositeur. Est-ce que c'est être bon ou mauvais auditeur? Ah, vous avez une réponse à donner à cette question. Vous avez l'air de trouver la question débile, donc c'est intéressant de la commenter. Vous avez fait... J'aimerais bien avoir la traduction de... Donc je vous redis la question. Vouloir savoir ce qu'a voulu exprimer le compositeur, c'est être bon ou mauvais auditeur?
Ni l'un ni l'autre, en fait. Parce qu'il y a des compositeurs, on a envie de savoir, on a envie d'aller au-delà de ce que... Et puis d'autres, on se laisse porter ou pas. Donc en fait, c'est ni être mauvais, ni être bon, quoi. Et puis la musique, elle doit provoquer une émotion. Alors si elle me provoque une émotion, j'ai envie de chercher pourquoi ça me provoque cette émotion-là. Mais il y a d'autres musiques, voilà. Je prends l'exemple de Christine, parce que j'aime beaucoup, voilà, parce que c'est plus facile pour moi. Et Christine, elle me provoque toujours des émotions. Et là, j'ai envie de savoir le pourquoi du comment.
Ah, donc parce que Christine est une musicienne qui crée des bons auditeurs.
Pas, non, mais en ce qui me concerne, mais elle peut créer pour des mauvais... Mauvais éditeur pour certains, mais
d'accord.
Pour moi, c'est...
Est-ce qu'il vous arrive de surinterpréter une musique?
Oui.
Et à ce moment-là, vous vous considérez bonne ou mauvaise auditrice?
Très mauvaise.
Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, en même temps qu'être mauvaise auditrice, vous vous dites c'est quand même ce qu'il faut faire. Enfin, est-ce que vous avez envie?
Non, c'est parce que ça me porte.
C'est ça.
Mais c'est pas forcément que je suis pas forcément...
Maxime Decoux, on entend bien dans ces témoignages du public de La Clairière que l'écoute buissonnière se vit comme une mauvaise écoute, en quelque sorte, tandis qu'il suffirait de mettre un casque pour devenir aussitôt une auditrice modèle, par exemple.
Oui, alors la personne là qui s'exprimait, je trouve, dit des choses très justes sur la relativité des notions de bonne écoute, mauvaise écoute. Et en même temps, elle pointe du doigt une pratique fréquente qui est effectivement l'écoute flottante, ce que j'appelle effectivement, concernant la lecture buissonnière. Parce qu'il est vrai que on peut lire et c'est pas forcément condamnable en pensant à autre chose. C'est extrêmement fréquent que, lisant une page, vous vous dites « bah mince ». J'ai pensé, on est accaparé par sa liste de courses, sa vie quotidienne, et on ne pense plus à ce qu'on lit. Et en fait, la lecture devient totalement mécanique. Alors là, ça devient, on est obligé de relire, ou alors parfois, c'est, vous voyez, il y a des degrés qui s'introduisent d'attention et de flottement, et qui ne sont pas à condamner, parce que je pense que ne pas lire de manière absolument concentrée, ce n'est pas forcément... une manière de lire qu'il faut rejeter. C'est une manière fréquente de lire. Et puis, on peut lire en sautant des pages, en sautant des mots, ce qui suppose aussi de modifier. On modifie, en fait, le texte quand on fait ça, et on en modifie la compréhension nécessairement. La lecture mot à mot, ligne à ligne, ou la lecture plus rapide, en fait, engendre des effets différents du texte. Ce n'est pas le même texte qu'on lit. De toute façon, ce n'est d'un lecteur à l'autre, ce n'est jamais le même texte qu'on lit. Il y a toujours des nuances. Le texte n'existe que fixé sur la page. Il y a un texte matériel, mais après, le texte que nous créons, il est toujours très différent parce qu'il y a des zones, des blancs, des zones d'incertitude. Et alors, encore plus dans le texte littéraire où on peut interpréter de différentes manières et chaque personne... bien sûr, il ne faut pas exagérer non plus quand je dis chaque. Enfin, y a des variabilités, en tout cas, dans l'interprétation. On ne construit pas le même texte à partir du texte.
Alors, parmi les caractères des mauvais lecteurs qu'on pourrait facilement transposer au caractère des mauvais auditeurs, c'est le dilettante et le fétichiste, qui sont deux figures bien différentes, puisque l'une est plus buissonnière et puis l'autre un peu plus obsédée, on pourrait dire. Comme je posais la question à la clairière, vouloir savoir ce qu'a voulu exprimer un compositeur, c'est signe qu'on est plutôt mauvais auditeur, alors même qu'on veut se faire l'auditeur modèle.
Alors, de même, la question me paraît appeler une réponse nuancée et complexe. Vous touchez à chaque fois des zones de complexité, je dirais. Parce que la question de l'intention de l'auteur et de l'intention, partant de l'intention du texte, est une question particulièrement complexe qui a une histoire. Lorsque la critique littéraire, au sens d'analyse de la littérature, émerge en tant que telle, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, elle va chercher peu à peu à se détacher d'une approche subjective, c'est-à-dire de la critique journalistique. Donc elle va chercher à se donner des méthodes. Et très vite, on constate que comment est-ce qu'on peut avoir une analyse de la littérature qui soit la plus objective possible et la plus scientifique ? Bon, sachant qu'à la fin du 19e et au début du 20e siècle, le modèle des sciences naturelles se développe énormément et devient prépondérant pour le développement des sciences sociales en tant que telles. Donc, quand on va essayer de penser la critique littéraire, on va la penser sur le modèle des sciences naturelles, en se disant on va essayer de doter notre discipline d'une véritable méthode scientifique. Et donc, on se dit l'analyse que fait un lecteur, c'est nécessairement subjectif. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à fonder une approche objective. Et donc, on va se concentrer principalement sur l'auteur, qui est le pôle le plus fixe dans la relation qui se tisse autour d'un livre, d'un auteur à un lecteur. Le pôle fixe est finalement l'auteur. Le pôle du lecteur est un pôle variable qu'on ne peut pas saisir très facilement. Donc, on va s'intéresser à l'intention de l'auteur. Et ça va entraîner un certain nombre d'excès. Alors, on sait notamment, c'est la critique de Sainte-Beuve, notamment, qui va chercher à lire les œuvres à partir de la biographie des auteurs. Et ça sera fortement critiqué, notamment par Proust. Marcel Proust, qui écrira un contre Sainte-Beuve, expliquant que c'est une aberration d'essayer d'interpréter les œuvres à partir de la vie de l'auteur, puisque ce n'est pas de là que l'auteur écrit, qu'il y a un moi, ce que Proust appelle un moi social de l'écrivain, qui est le moi donc qu'il présente en tant qu'individu humain dans la société, et puis il y a un moi de l'écrivain qui est un moi profond, qui s'exprime dans ses œuvres, et celui-là, il est inaccessible et il ne se traduit pas dans la biographie. Donc la lecture à partir de l'intention de l'auteur est devenue progressivement une lecture qui a été discréditée parce qu'on s'est rendu compte que...
Qu'elle avait quelque chose de beuviste.
Que c'était du Sainte-Beuvisme et qu'elle était finalement assez réductrice. Alors du côté de la musique, je ne sais pas si la critique musicologique, la musicologie a suivi ce genre de pente ou d'évolution, mais il me semble que ça fonctionne de la même manière. Quand j'écoute un morceau de Chopin, personnellement, parce que j'ai été aussi formé à une critique, à une analyse qui s'est détachée de ces notions d'intention d'auteur, en tout cas, je ne me pose jamais la question de savoir ce que Chopin voulait faire. Ce que je regarde, c'est ce qu'il a fait. C'est ce que je dis d'ailleurs toujours à mes étudiants. Et alors bon, les étudiants à l'université sont quand même formés, mais...
Formés, vous voulez dire à être plus proustien que beauviste.
Exactement, on les a formés, donc c'est surtout vrai chez les collégiens ou les lycéens, quand vous leur faites travailler sur un texte, que vous leur montrez une interprétation, leur première réaction c'est « mais comment est-ce qu'on sait que l'auteur a voulu dire ça ?» Alors ce qu'on leur dit c'est « mais on ne commande pas ce que l'auteur voulait faire, on commande ce qu'il a fait,
ouais.
Parce qu'il y a une grande partie qui lui échappe. »
Mais alors, puisque vous parlez de Chopin, je vais vous lire un petit texte. Chopin, ce grand artiste maladif, sensible, égoïste et dandy, qui déploie pendant un instant doucement dans sa musique les aspects successifs et contrastés d'une disposition intime qui change sans cesse et n'est pendant plus d'un moment doucement progressive sans que vienne l'arrêter, se heurtant à elle et s'y juxtaposant une toute différente, mais toujours avec un accent intime maladif et replié sur moi-même dans ses frénésies d'action. C'est un texte de Proust.
Ah, c'est de Proust.
Dans Contre Sainte-Beuve.
Ah, très bien.
Alors, c'est fou parce que c'est ce que relève très bien Donatien Gros, c'est que finalement, cette opposition du moi profond et du moi social, elle est. Enfin, Proust la puise chez Sainte-Beuve lui-même.
Oui. Très juste.
Ouais.
Effectivement. Donc là, on touche un paradoxe. Ouais. Un paradoxe qui est vraiment intéressant.
Qui est vraiment même problématique. Oui. Parce que qui plus est à l'endroit de l'écoute de Chopin, ça nous convoque à un endroit de nous-mêmes qui est comme dissocié par l'œuvre, en même temps que par le petit roman qu'on est appelé à se raconter.
Oui, tout à fait. Après, il me semble que. Après, la question est de savoir jusqu'où l'œuvre et l'intention de l'auteur peuvent coïncider. Parce qu'on est sur des créations qui ne sont pas simples, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de faire un cadeau de fête des mères en papier mâché, où là, éventuellement, le produit peut correspondre à l'intention. On est sur une œuvre d'art dont les dimensions sont multiples. Et donc, évidemment, alors, si je reviens à l'œuvre littéraire, dans un texte littéraire, ce qu'il caractérise, et c'est là que ça le sépare, je pense, vraiment de l'œuvre musicale, c'est la question du sens, de l'interprétation, parce qu'on passe par des mots, il y a un discours qui est tenu, et donc un discours qui est polysémique. Et parmi la multitude de sens qui caractérise une œuvre littéraire, il est impossible que l'auteur les ait tous prévus consciemment et fabriqués intentionnellement. Donc il y a nécessairement une part qui lui échappe. Et je pense que dans la musique, c'est la même chose. On a une part qui échappe nécessairement au compositeur.
Je vous propose de retourner à la clairière où j'ai proposé aux auditrices et auditeurs de cette fois faire exprès de mal écouter cette œuvre de Chelsea. Alors, est-ce que certains ou certaines d'entre vous sont sûrs d'avoir entendu quelque chose que le compositeur n'a pas voulu dire ? Oui ? Oui. À force de distraction, vous avez une écoute super en profondeur.
Disons que je suis sûr... Enfin, je sais pas ce qu'il a voulu exprimer, mais moi, j'ai pu avoir des images dans ma tête, parce que je me suis concentré. Et voilà, mais donc ça m'étonnerait que les images que j'ai eues dans la tête, en écoutant ça, en étant concentré, qui m'inspiraient d'ailleurs d'autres sons, qu'il les ait eues, je pense pas, parce que ça reste très personnel.
D'accord. Vous sauriez pas nous dire quoi, du coup, tellement c'est personnel mais...
Ah non, non. Moi, j'ai imaginé un bateau qui arrivait dans une méandre, et puis il y avait un orage qui arrivait, et puis voilà, et puis j'imaginais d'autres sons d'oiseaux qui faisaient voilà, de genre, voilà. Et ça reste personnel, cette pensée. qui s'associe à des images, voilà. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il ait pensé à ça. C'est ça que je veux dire.
D'accord.
Même au niveau sonore, les bruits des oiseaux.
Ouais.
Bah moi, ça m'a fait très peur, en fait. Moi, j'ai eu l'impression d'être dans la forêt, dans la nuit, et quelqu'un me poursuivait. Et vraiment, ouais, ça m'a fait peur. Moi. Ouais. J'écouterais pas ça, quoi. J'ai eu un coup de froid, là.
Alors, pour terminer, on va écouter quelques 2 minutes. Christine nous jouait. Et là, peut-être, je vais vous demander, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mal l'écouter ? C'est-à-dire, on a eu la piste de la surinterprétation, qui est, selon Maxime Decoux, hein, des façons, mais de mal écouter en même temps que de reprendre le pouvoir sur ce qu'on veut faire de notre écoute. Il montre qu'on fait parfois l'opposition, peut-être à tort, entre la lecture buissonnière, c'est-à-dire une lecture qui s'évade, qui saute des pages, qui effectivement se laisse distraire, et ce qu'il appelle une lecture interventionniste, où on va carrément, dans ce qui est écrit, aller au-delà de ce qui est écrit. Et finalement, il dit qu'entre la surinterprétation et puis la distraction, bah, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire on est simplement à se réapproprier ce qu'on est en train d'écouter. Donc dans ce que Christine va nous jouer, qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme défi d'écoute ? Peut-être essayer de, puisqu'on a la chance d'être là ensemble à écouter à plusieurs une musique, d'essayer de se forcer à écouter autre chose que ce que pourrait entendre notre voisin ou notre voisine. Ça peut être une piste. Alors, non, ma dernière question, c'est ceux qui ont été tellement mauvais auditeurs qu'ils ont désobéi à ma consigne et qui en sont arrivés à écouter avec les oreilles des autres. Est-ce que certains ont eu ce sentiment-là d'écouter de façon justement collective, en quelque sorte, c'est-à-dire d'écouter au-delà de son propre ressenti ou...
Sa musique me provoque tellement d'émotions, ouais. Bah, je sais pas, voilà, que j'ai besoin de regarder les autres et d'écouter à travers notamment Patrick qui n'a pas les mêmes émotions que moi.
Sans faire des parterres.
Moi, je dis oui, mais t'as pas les mêmes. Enfin, voilà. Ou de regarder Robert, enfin, qu'on n'est pas. Ça ne pas pas regarder mes émotions.
Donc, vous avez l'impression de devoir déléguer une partie de votre
voilà,
écoute.
Ouais, ouais. Et ça fait du bien.
Bah oui.
Bah oui, non, mais c'est. Parce que ça me provoque trop d'émotions. Désolée.
Tu n'as pas tes émotions.
Bah non, j'arrive pas. La musique à Christine est très. Non, mais à chaque fois, ça me fait ça, t'inquiète.
La musique de Christine Zayed qui émeut tellement qu'elle isole son écoute de celle des autres, ça rappellerait presque Louis Lambert de Balzac, Maxime Decoux.
Alors, chez Louis Lambert, on est dans un cas de lecteur qui envisage une sorte de totalité de la lecture qui vient grignoter son existence. Et ça s'inscrit dans une réflexion chez Balzac sur le savant, puisque les textes que lit Louis Lambert sont surtout des textes, des traités philosophiques. Ici, Balzac pointe du doigt cette frontière très mince entre la rationalité qui vous pousse à la connaissance, au savoir, et le moment où elle bascule dans la folie. Parce que Louis Lambert envisage une lecture qui phagocyte en fait complètement son existence. Il pratique une lecture, mais c'est une lecture de traités savants qui entraîne un basculement progressif vers la folie, une sorte de totalisation de l'expérience lectrice, qui est assez inquiétante. Et on sait que Balzac était très proche d'un certain nombre de mystiques et du mysticisme, était très intéressé par cette frontière. En fait, on est au 19e siècle, la science se développe, mais en même temps, il y a encore une part importante de pseudo-science et de fascination pour tout ce qui est de l'ordre de l'occulte, tout ce qui n'a pas encore été véritablement éclairé. Et Balzac se tient vraiment sur cette frontière-là, entre la fascination pour la rationalité et de l'autre pour tout ce qui relève de l'occulte. Et on trouve ça dans cette lecture chez Louis Lambert, je pense que ça peut s'expliquer comme ça.
En guise de dernier chapitre de cette émission, je vous propose d'écouter une interview avec Antonin Triwang, qui est un musicien qui s'est laissé prendre au jeu d'un mentalisme musical qui consiste à faire entendre à des auditeurs une musique, mais de façon complètement privée au casque, et ensuite de la décrire pour qu'à leur tour, en retour, ils fassent une musique.
Alors moi, c'est pas moi qui ai appelé ça comme ça, c'est Jean-Jacques Birger. Et en fait, il organise beaucoup de rencontres avec différents musiciens et musiciennes, ouais, avec des tentatives très différentes, et c'est tout réuni sur son site.
Ouais.
Il m'avait proposé de faire ce concert avec Mathias Lévy, et il cherchait une idée. Et moi, ça fait quelques années que je travaille un peu sur cette idée de musique racontée. Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est-à-dire d'écrire de la musique à partir de désirs musicaux de non-musiciens. Et donc j'ai fait plusieurs tentatives, dont une était dans le cadre de l'Orchestre La Sourde, quand on a commencé à travailler sur la Symphonie Tombée du Ciel. Je me disais, ce serait bien qu'on fasse composer la musique à des gens qu'on rencontre. Voilà, que ce soit la forme, les envies. Et donc on a interviewé des gens. Finalement, le projet a pris une autre direction. On a interviewé les gens sur d'autres choses. Mais il y a une partie de ce travail qui a été fait, notamment avec des prisonniers à La Roche-sur-Yon. On leur avait proposé de les rencontrer, de leur demander des souhaits musicaux, parce qu'ils n'ont pas forcément accès à des concerts. Qu'est-ce qu'ils aimeraient entendre comme musique? On avait des commandes comme ça. C'était un peu l'idée de compositeur public, mais avec toute latitude, quoi. Et donc on avait fait des petites pièces à partir de ces demandes. Et j'avais essayé avec d'autres gens, mais c'est un peu difficile de faire parler les non-musiciens. Enfin, voilà, c'est justement la difficulté qui est intéressante. Mais enfin, en tout cas, les gens ne sont pas toujours à l'aise et libres. Ils ne se sentent pas forcément autorisés. Donc, il faudrait trouver d'autres angles. Et l'autre angle que j'ai trouvé pour ce concert-là, je disais à Jean-Jacques, une autre manière de leur faire parler de musique, c'est de leur faire écouter de la musique et nous demander de la décrire. Sauf que nous, en tant qu'improvisateurs, on ne sait pas ce qu'ils écoutent. Donc c'était ça le protocole, c'était que j'avais fait une... Par contre, bon, j'ai dû faire la playlist, mais j'avais fait assez vaste et de manière aléatoire.
C'est une playlist de 5 heures.
Oui, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, je voulais la retrouver, voir ce qu'il y avait dedans. Et donc de la passer en aléatoire, dans un Walkman, et entre chaque morceau, de faire écouter ce qui se passe à ce moment-là.
Une boîte d'allumettes rencontre un paillasson. Et il se lance dans une danse langoureuse, chaloupée.
Voilà. Et puis, voilà. Et puis, et aussi demander pas forcément aux gens de dire s'ils aiment ou pas, parce que c'est un peu la réponse qu'on demande aux regardeurs, aux auditeurs. C'est est-ce que
vous voulez dire que le jugement esthétique suspend l'imagination?
Bah oui, bien sûr, le jugement esthétique et le cartel et le savoir ce que c'est. Donc le fait de ne pas savoir
permet de l'écouter pour de vrai, enfin, sans avoir des jugements qui s'enclenchent indépendamment de ce qu'on entend.
Mais voilà, moi j'avais. Mais c'est un truc qui me taraude un peu, c'est de faire plus de musique anonyme, c'est-à-dire sans savoir qui est l'auteur, et de brouiller un peu les pistes. J'avais une idée comme ça d'un peu de revue musicale où on proposerait à plein d'artistes, mais qui seraient mentionnés, mais on ne saurait pas qui a fait quoi. Enfin, parce que je trouve que ça libère l'écoute, même si c'est un peu énervant, parce qu'on est toujours en train de vouloir savoir qu'est-ce que c'est, qui a fait ça. Et le réflexe le plus évident, c'est ça, c'est d'être dans un musée et de regarder le cartel avant le tableau. Et je le fais aussi, hein, c'est dommage qu'on ne nous permette pas de ne pas le savoir. Et donc voilà.
Donc le mauvais auditeur, c'est d'abord celui qui veut savoir ce qu'il écoute. En termes d'identité de qui l'ont fait, de titre.
Oui, je pense que c'est très difficile de. On n'est pas à l'aise quand on n'a pas nos préjugés.
Oui, mais alors.
C'est très difficile d'ouvrir un livre dont on ne sait rien. Si on n'est pas intrigué par peut-être une maquette un peu étonnante, tout ça, mais commencer l'ouvrage de quelqu'un au hasard, on est très souvent. Enfin, c'est très dur d'aller au bout. Enfin, personnellement, je trouve ça dur. Alors que. Quelqu'un qui nous le conseille ou un mythe autour de l'auteur, l'autrice, nous met dans la légende. Et on lit plus ce qu'on lit.
Oui, mais dans l'hypothèse où la meilleure disposition pour lire un livre ou écouter une musique est en fait une disposition produite par l'œuvre elle-même, ça veut dire qu'il faut s'y plonger avant que de savoir comment bien la vivre.
Oui, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, c'est plus difficile d'avoir ces conditions. Elles étaient imposées avant par le fait qu'il y avait moins d'informations, qu'elles étaient plus difficiles à obtenir. Et d'ailleurs, on était presque plus acharnés pour les retrouver.
Oui.
Mais c'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais c'est au contraire. C'est le fait que ça soit plus comme ça, que ça devient plus intéressant de ne pas savoir. Alors que peut-être qu'avant, c'était plus intéressant de savoir.
Oui.
Maintenant, je trouve que c'est plus intéressant de, de ne pas savoir. Parce qu'on peut, facilement le savoir.
Ah oui.
Mais ça, c'est, le smartphone, c'est un objet intéressant parce qu'il rend intéressant le fait de ne pas en avoir. Ben, il rend la vie intéressante parce que, quand on ne l'a pas. Je sais pas.
Parce que dans vos séances de mentalisme musicaux, est-ce que les meilleurs auditeurs étaient nécessairement celles et ceux qui étaient les mieux disposés à décrire ce qu'ils ou elles avaient entendu?
Il y a quand même un élément qui est quand même important, c'est que c'était pas une écoute intime. Les gens parlent en public, même s'ils ont un casque, ils sont un petit peu isolés, mais ils parlent en public, donc quand même il y a quand même le regard des autres et je pense qu'ils essaient de dire des choses intéressantes.
Mais parce que là vous créez une contrainte sur l'écoute qui la rend mauvaise par définition presque, parce qu'en plus ça laisse planer le biais que meilleur narrateur on est, pire auditeur on a été.
Peut-être, en tout cas
bien raconter son écoute, c'est mauvais signe de...
En tout cas, se rendre intéressant. On aime aussi les choses pour se rendre intéressant. Hein. C'est un autre aspect du cartel.
On cherche le bénéfice social. Ouais.
C'est de pouvoir parler de l'expo d'un tel ou d'une telle.
Ouais.
Et de pas de parler de la croûte qu'on a vue. Enfin, je sais pas. Socialement, c'est intéressant d'être érudit, de savoir plein de choses. Mais l'autre.
Mais on peut bien regarder une croûte.
Oui, bien sûr, mais en parler, c'est plus difficile.
Oui.
On va pas avoir du succès socialement, forcément. Enfin, peut-être avec certaines personnes. Mais l'autre biais, je pense, c'est d'avoir envie d'entendre de la bonne musique qui suit. on va pas dire, peut-être qu'on va un petit peu travestir ses sensations pour avoir
un truc qui est
très différent
dans un film coréen. comme une révolte, comme si les chiens se révoltaient. C'est que c'était noir. Hein. Peut-être. Mais ouais, très noir, très. Ça fait peur.
Maxime Decoux, à l'écoute de ce musicien, donc Antonin Triwang, on entend bien que finalement le problème c'est l'auteur.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce qu'il dit, et beaucoup de choses qui m'ont vraiment intéressé dans sa démarche. Alors en particulier ce qu'il dit au début sur la question de la description de son audition par différents auditeurs, qui est une manière finalement aussi de se passer peut-être de l'auteur. Ça pose la question de cette subjectivité de la réception. Comment est-ce qu'on peut tenter de savoir comment les gens lisent, comment les gens écoutent, en leur demandant effectivement peut-être un récit. Et puis, cette idée ensuite qu'il développe de donc composer cette musique à partir des différentes réactions des gens et donc de plusieurs personnes, hein, une sorte de patchwork, pour se passer justement de cette figure encombrante, encombrante de l'auteur. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi dans la littérature. Mais la figure de l'auteur, elle reste, elle écrase toujours quand même le texte, mais elle reste souvent utile pour le lecteur. Vous allez acheter un Balzac en librairie. Vous allez acheter un Stephen King. Donc vous avez quand même besoin de ce nom, même si vous le videz de sa biographie, vous avez besoin de ce nom pour unifier, notamment lorsqu'il y a plusieurs textes, pour unifier une œuvre. Ça vous permet, si vous voulez, quand vous découvrez une nouvelle œuvre, de l'identifier comme appartenant aussi à une série. Si bien qu'on ne peut pas complètement se passer de l'auteur, c'est aussi une clé d'entrée dans les œuvres. Néanmoins, c'est plutôt du côté de la production que les écrivains ou les compositeurs apparemment cherchent à se débarrasser de cette notion-là qui est un peu encombrante. On le voit en littérature dans les tentatives d'écrire à plusieurs, donc qui ont été mises en place par exemple dès le surréalisme et qui seront surtout développées par Oulipo. Oulipo qui a souvent signé des textes du nom Oulipo, donc sans qu'on sache quels sont les écrivains qui interviennent. Il y a des textes composés à plusieurs mains qui sont assez fréquents. Il y a quelques années est paru d'ailleurs un roman de Boris Vian terminé par Oulipo qui s'appelle On n'y échappe pas.
Et donc de la même façon, Antonin Triwang voilà. qui essaye de dissiper l'auctorialité de la musique qu'il joue en proposant aux auditeurs et auditrices de eux-mêmes de penser la forme. Avec au passage quand même le rêve d'une musique qui serait précisément dépouillée d'auditeurs modèles.
Tout à fait. Ouais. Je pense qu'on serait même dans le rêve d'une musique collective en fait.
Oui.
Et donc qui serait, enfin là, sur le pôle de la création, qui serait du côté du partage et qui, sur le pôle de la réception, pourrait aussi se faire sur un mode moins individualisé, moins individuel. Comme d'ailleurs... Alors, sur un autre registre, c'est ce qu'envisageait aussi Oulipo avec des créations qu'ils appellent à Oulipo des créations créantes, c'est-à-dire des créations qui ne sont pas achevées, mais où ce sont les lecteurs et lectrices qui sont chargés de faire le travail et donc de devenir eux aussi auteurs au même titre que l'écrivain. Donc c'est une autre manière, si vous voulez, de dissiper ce poids de la figure auctoriale.
Merci beaucoup, Maxime Decoux. Je rappelle qu'on peut lire Éloge du mauvais lecteur aux éditions de Minuit. Et merci au CNSM de Lyon d'avoir accueilli l'enregistrement de notre entretien.